à votre santé. Et voici la 121e émission de l'Association citoyenne pour un centre de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM 93.7, Hélène Mazure au micro de la radio avec...
À votre santé, Daniel Cléo, bonjour les amis de RVM.
Et vous ne le voyez pas, mais il vous dit ça avec un très large sourire comme d'habitude. Voilà, nous sommes repartis pour des informations d'actualité. Vous le savez, l'actualité, c'est à nouveau la reprise de la pandémie. Bon, bah, en Europe, on le savait déjà, dans un certain nombre de pays, et dans le nôtre aussi. Alors, Daniel, c'est toi qui as épluché quelques chiffres, comme d'habitude.
On n'a pas la prétention d'être une émission médicale, on n'a pas la compétence, quoi. Mais bon, il faut quand même admettre qu'on est reparti dans une cinquième épisode d'épidémie, quoi. Alors, je voulais quand même rassurer les auditeurs qui téléphonent à Doctolib et puis qu'on leur répond « Désolé, mais ce numéro ne peut être obtenu ». Il paraît que c'est normal, le numéro est faux et puis bah, tout le monde le sait, mais voilà, ça ne bouge pas. Alors, c'est incroyable. C'était le 03 44 59 44 49. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas, vous allez au centre de vaccination à Crépy-en-Valois, à l'hôpital, c'est le mieux. Ou alors vous téléphonez à la mairie.
Tu rappelles où se situe maintenant le centre de vaccination de Crépy-en-Valois?
En face de l'hôpital de Crépy-en-Valois, rue Saint-Lazare.
Pour ceux qui connaissent la maison de garde, à côté médicale. De la maison de garde médicale.
Donc c'était. Et puis je peux quand même dire également un petit chiffre. On en est à 53 000 injections au centre de vaccination de Crépy-en-Valois. C'est pas dit.
D'accord.
53 000 personnes, j'ai dit 53 000 injections. Voilà. Donc, le taux d'incidence a doublé en 10 jours.
Tu nous rappelles, Daniel, le taux d'incidence?
Alors, actuellement, pour 100 000 habitants, dans la Somme, il est de 137,6. Dans l'Oise, il est de 140,4. Et dans l'Aisne, il est de 151,9. Ça veut dire qu'il a pratiquement doublé, puisque la semaine précédente, on était dans les 67 dans l'Oise, et que là, on est passé à 140, où il a plus que doublé. Voilà. Donc, c'est quand même un peu anxiogène, cette histoire. Surtout que maintenant, on nous parle d'un nouveau virus. Mais ça, on n'est pas qualifié pour épiloguer là-dessus.
Oui, moi, ce que j'ai entendu du président, là, du conseil scientifique, c'est que, comme on n'en savait rien, qu'on ne le connaissait pas, on n'allait pas partir dans des hypothèses sans fondement. Ouais. Donc voilà, donc on ne dit rien pour le moment. Daniel, oui, là, donc tu me parlais du nombre, donc du taux de personnes qui à nouveau contractaient le virus. Est-ce que tu sais si ça se retrouve sur les hospitalisations?
Oui, alors là, le 25 novembre, donc jeudi 25 novembre, on en était à 356 malades hospitalisés en Picardie pour la Covid-19. Donc 48 en réanimation et soins critiques. On en est revenu au mois de juillet 2021.
Au chiffre du mois de juillet 2021. D'accord.
Donc, c'est quand même pas terrible.
Bon, oui, mais enfin, quand même, cet été, c'était quand même une embellie.
Par rapport à ce qu'on avait connu, c'est vrai. Mais il y a quand même un frémissement qui est inquiétant.
Voilà. Donc il est évidemment temps de prendre des mesures.
Voilà.
Et donc, on a entendu parler des fermetures de classes. Tu avais des nouvelles sur notre secteur?
Moi, j'avais entendu 3 classes fermées au groupe Malraux. Après, je ne sais pas plus, des mères de famille.
Et on avait un chiffre global, d'ailleurs. Il y a eu un nombre important au niveau national de...
Ah, il y avait plus de... La semaine dernière, on en était à 6 000 et je crois que là, on était à 16 000.
Oui, donc
pour
c'est
toute
quand même,
la France, sur les 35
énorme.
000 communes, c'est quand même pas mal.
Ouais. Alors, le ministre de la Santé n'a pas l'air de trouver ça.
Non.
Par contre, moi, j'entends les associations de parents, les syndicats d'enseignants, eux, ils disent toujours que c'est pas adapté, que les mesures ne sont pas adaptées comme il faudrait. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur ce qui est demandé depuis longtemps. Je me souviens que je m'étais renseignée là-dessus. Vous savez, l'aération des classes, et bien sûr, on leur demande de porter le masque, c'est une chose, mais il y a l'aération, vu qu'ils sont en groupe. Et évidemment, maintenant, nous sommes en hiver, on ne peut pas faire les courants d'air comme ça, ou sinon, ils vont attraper autre chose, les gamins et les gamines. Et moi, j'ai lu qu'il y a plusieurs choses qu'il faut... comment dire, il y a un appareil... Ah, tu vas m'aider, Daniel.
Oui, qui... un détecteur à voilà. CO2,
oui, c'est ça.
Qui coûterait exactement. Pas bien cher, mais qui
voilà,
qui annonce...
exactement. Alors, voilà. C'est peut-être pas le terme exact. Excusez-nous, les auditrices, auditeurs, on fait ça de mémoire.
Ouais.
Donc, un appareil qui détecte le taux de CO2 et en fonction de ça, exige finalement aération ou pas.
Voilà.
Et si effectivement le taux est important, alors là s'impose un autre type d'appareil qui, lui, aère, hein, effectivement.
Et filtre, surtout.
Ouais, et filtre l'air.
Les bactéries, voilà. Etc.
Voilà. Ouais, et donc ça, je sais que c'est demandé depuis très longtemps.
Ouais.
Il faut savoir qu'il n'y a aucun équipement spécifique pour les écoles et les établissements scolaires d'une manière générale, qui étaient produits, financés, programmés, comme vous voulez, pour ralentir ou en tout cas anticiper la propagation du virus dans les établissements scolaires. Tout ce qu'on demande, alors on vous parle de protocole, mais en fait, on demande au personnel, enseignants, agents, direction, éducation, etc., de faire toutes sortes de gymnastique, excusez-moi l'expression, dans les parcours, dans les couloirs pour pas qu'ils se croisent, etc., dans la cour, dans la surveillance des masques, etc. Il devait y avoir toute une campagne de tests payée par l'État, organisée par l'État. Ça n'a jamais été appliqué comme ce qui a été annoncé. Alors qu'on dit que quand même, la propagation passe beaucoup par les enfants, les jeunes, et évidemment, se propage dans les familles. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même que les ministères concernés, éducation, santé, se concertent avec les intéressés et les écoutent.
Écoutez.
Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse, vous permettrez, à l'ancienne enseignante qui est toujours en contact avec ses collègues qui sont encore en activité, de se faire un peu leur écho, hein, leur porte-parole. Alors, Daniel, il y a des nouvelles dispositions qui sont prises pour les établissements scolaires.
Oui. Alors, systématiquement, quand il y avait un cas de Covid dans une classe, on fermait la classe.
Oui.
Actuellement, ça ne sera plus le cas. On va juste éjecter le gamin ou la fille qui est positive et les autres enfants sont testés avec des autotests.
T'es méchant de dire éjecter.
Bah,
isoler,
bah,
demander
oui,
qu'ils soient mis à l'isolement, ce qui n'est pas meilleur.
Ces pauvres gosses, oui, c'est ce voilà. qu'ils vont ressentir.
Hein. Ah ben bah oui, qu'ils vont être marginalisés du fait qu'ils sont testés positifs.
Bien
complètement.
Sûr.
Et donc se repose la question du suivi pour ces enfants qui auront été contaminés.
Sachant que ce sont les enfants qui sont vraiment des grands vecteurs du virus sans être touchés eux-mêmes. Voilà.
Enfin, si, si, ils sont touchés puisqu'ils sont, mais sans être vraiment très malades.
Ils charrient le virus.
Ils sont porteurs.
Ouais.
Bon, donc on va voir. Donc maintenant, on ne va pas fermer systématiquement. On va en mettre de côté. Donc, on nous parle d'un dispositif d'expérimentation.
Depuis le 12 octobre dans l'Aisne. C'est l'Aisne qui a été le premier à expérimenter.
Et donc, si c'est depuis le 12 octobre, il y a des résultats.
Ça sera efficace, mais pas imparable.
Alors,
voilà.
Un mieux, sans que ce soit 100%.
Que cela est bien
donc,
dit.
À suivre.
En termes choyés,
voilà. Alors, quand on parle de pandémie, de maladie, après on se pose la question, est-ce qu'on peut être bien soigné? Qu'en est-il des dernières informations sur nos médecins, nos établissements de santé du secteur, on va dire? Tu as des nouvelles, toi, Daniel?
Pour nous, dans notre région vraiment toute proche, on a su qu'il y avait un cabinet de cardiologie qui se fermait dans Compiègne. Bon, bah ça, c'était en ville. Hein. C'est certainement un départ en retraite qui n'est pas renouvelé.
Alors, si tu permets, je rappelle j'informe ceux qui ne le savent pas qu'un cardiologue de l'hôpital du centre hospitalier de Creil est attaché au centre de santé de Crépy-en-Valois. Voilà. Il fait des consultations régulières au centre de santé sans dépassement d'honoraires puisqu'il vient de l'hôpital.
Ça, c'est acquis, oui. Oui, oui.
Alors, continuons.
Des démissions, alors c'est vraiment un grand regret. Il y a des démissions en cascade au bloc opératoire du centre hospitalier de Compiègne.
Eh bien, ma foi... Est-ce que ça nous étonne? Ça se passe partout. Souvenez-vous, nous vous avons parlé en plus du mouvement social qui continue, des infirmiers anesthésistes.
Bien sûr.
Où ce qu'on leur a annoncé ne correspond pas à leur demande. C'est très important, leur demande. Tout le monde comprend que sans infirmiers anesthésistes, on ne peut pas faire d'anesthésie, on ne peut pas faire d'opération. Donc, c'est quand même incroyable qu'on ne prenne pas... comment dire, la mesure du problème pour écouter et essayer d'apporter des solutions. Donc, évidemment, ça dépend encore du niveau national et de la volonté d'investir la santé d'une autre manière que ce qui est fait aujourd'hui.
On peut évoquer également dans le secteur privé, la maternité de la clinique Saint-Côme sera fermée le week-end, faute de personnel.
Donc voilà, ça touche tous les secteurs. Hein. La médecine de ville, le secteur public de la santé, le secteur privé.
Les sages-femmes qui sont également en grève encore. Sont déclarées en grève.
Oui, ouais, donc malgré ce qui leur a été annoncé. Voilà. Parce que par rapport au retard et au manque de... c'est pas considération, mais ça l'est quand même, par rapport à leur qualification et à la responsabilité qu'elles ont. Elles sont complètement pas seulement rémunérées, mais elles sont dans une classification qui ne correspond pas. Voilà. Déclassifiées. Voilà.
Ah oui, j'ai une petite info sur Crépy, tiens, vraiment du local. Actuellement, il y a 18 infirmières libérales dans Crépy-en-Valois.
Ah bon.
Donc, il n'y a vraiment pas de pénurie pour l'instant, en libéral.
Oui, d'accord. Alors, c'est bon à savoir, mais on sait qu'elles sont débordées, ces infirmières, quand on fait appel. Mais bon,
Bien. Comme elles disent également, il y a moins de boulot parce que les opérations de prothèses ont été reportées. Il y a tout un tas d'opérations annulées et ça leur fait énormément de boulot en moins. Les piqûres antiflébites et tout ça ne passent plus puisqu'il n'y a pas eu d'opération et elles sont reportées. Et ça, on n'y pense pas.
Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Non.
Parce que ça veut dire... Alors, j'espère pour les patients qui attendent que ça ne va pas s'aggraver. Et d'autre part, que quand les opérations pourront à nouveau avoir lieu, ça va être à l'embouteillage.
Ah oui, il faut le craindre.
Voilà. Ça ne s'arrange pas. Alors écoute, moi, je vais donner quand même une bonne nouvelle.
Tu en as trouvé?
On va voir.
Tu en as trouvé?
Et oui, de temps en temps... Il y en a. Eh bien, l'Agence régionale de santé, donc des Hauts-de-France, a annoncé qu'elle allait accorder des crédits à l'hôpital de Creil et l'hôpital de Senlis. Vous savez qu'ils sont dans le même groupe, parce que la mode, c'est de regrouper pour pouvoir supprimer des services.
Comme Compiègne-Noyon.
Voilà. Et donc... c'est une bonne nouvelle parce que depuis le temps qu'ils attendaient des crédits depuis vraiment très très longtemps et qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas vu la couleur du Ségur de santé. Donc soyons plus précis, donc il y a 70 millions pour Creil et 500 000 pour Senlis. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent avec ça? Donc évidemment, ils accueillent ça avec une certaine joie, une certaine satisfaction depuis le temps qu'ils sont en mouvement, en action. Mais ils disent, il ne faut pas oublier que sur ces 70 millions, écoutez bien les auditrices et auditeurs de RVM, il y en a déjà 38 qui vont renflouer le déficit de l'hôpital.
Donc, d'accord.
Donc, c'est comme s'il n'y avait rien. On est d'accord? Donc voilà, vous savez compter. Si on enlève 38 à 70, il nous en reste 30 combien ?
32.
Merci. Donc voilà. Et ils demandent donc, alors en particulier, donc Quelqu'un que vous allez entendre bientôt sur les ondes de RVM, le docteur Loïc Penn, qui est assez connu, urgentiste et très impliqué hein, dans l'action pour l'hôpital, il demande que les moyens soient mis pour l'humain. Tout le monde comprend que pour l'humain, c'est pour des emplois. Et qu'aujourd'hui, si on veut des emplois, il faut de bonnes conditions de travail, de rémunération, d'écoute et de considération pour les personnels. C'est la base. Pour le moment, on n'entend pas que tous ces, comment dire, ces demandes-là soient suivies des faits. Alors, c'est pour cela que, bien qu'il y ait eu cette annonce, les personnels ont manifesté. Le jour d'un conseil de surveillance, donc les conseils de surveillance, ce sont les organismes qui gèrent les hôpitaux, mais enfin, ils sont en dessous de l'ARS. C'est l'ARS qui pilote tout, hein, faut le savoir, l'agence régionale. Et donc, parce que les personnels, donc s'ils ont manifesté, c'est qu'ils veulent à tout prix éviter la fermeture de lits. Évidemment, dès qu'il y a, déjà, il y avait des fermetures décidées en dehors de toute comment dire, diminution de personnel, mais en plus, avec du personnel qui quitte l'hôpital, c'est encore plus. Et donc, ils ont manifesté pour qu'on prenne bien en compte tout cela pendant cette réunion du conseil de surveillance. Et ajoute-t-il, le Creil, ce n'est pas la ville de Creil, c'est un bassin de vie de 90 000 habitants. Et il ne peut pas se passer d'un outil, comment dire, comme un hôpital public performant. Et pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit évidemment équipé au niveau matériel, etc. Et en personnel soignant, valorisé, disent-ils. Voilà. Donc, c'était quand même pour dire que les mobilisations, elles portent, même si ça ne va pas jusqu'au bout. Et dernière bonne nouvelle, cette fois qui est moins locale, mais qui pourrait avoir des répercussions locales. J'ai eu à ma connaissance, grâce à notre, comment dire, notre membre du conseil d'administration de l'association, Martine, qui est un peu notre cellule de veille au niveau des informations, le fonds d'intervention régional. Avez-vous entendu parler de ça? Eh bien, écoutez, il a été créé en mars 2012. Et évidemment, il a pour but, donc il est piloté par les agences régionales de santé. Et ce fonds, voici ce qu'il en est dit. Donc les agences sont libres d'adapter leur financement, donc ce fonds, en fonction de ce qu'elles identifient comme nécessaire à leur territoire, aussi bien en termes d'offres de soins sanitaires et médico-sociales, j'insiste, un centre de santé, par exemple, a une valeur à la fois sanitaire et médico-sociale. Je ferme la parenthèse. Ainsi qu'en matière de prévention ou de facilitation de l'accès aux soins. Et donc, là, il y a un montant donc, au niveau national de 3,7 milliards qui est réparti donc, entre toutes les ARS. Et donc, dans l'émission, on donne des exemples de financement donc, pour aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. Et dans ces exemples, écoutez bien les auditrices, auditeurs. C'est pour financer des exercices regroupés en centres de santé. C'est le premier qui est dit. Okay. En maison de santé pluriprofessionnelle ou pôle de santé, en infirmier, en pratique avancée. Et donc ce fonds est considéré comme un outil au profit de la territorialisation. Donc expliquons ce mot, c'est-à-dire le maillage du territoire en offre de santé. Et la transformation du système de santé. Eh bien, chers auditrices, auditeurs, nous reviendrons sur cette notion, y compris de transformation du système de santé. On voit bien qu'avec la faillite, excusez-moi de le dire, de la médecine libérale, aujourd'hui, il faut bien progresser. Et là, ce texte montre bien que ce sont les regroupements. Alors, chers auditrices, auditeurs, vous savez que vous pouvez nous écouter chaque samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, bien entendu, en podcast. Au revoir et merci.
Au revoir, chers amis.